VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 18 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, une attaque djihadiste contre un camp de l'armée a fait 21 morts hier dans le centre du pays.
Addis Abeba conclut à des similarités entre le crash du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines et celui de la compagnie indonésienne Lion Air.
Au moins 127 morts et de nombreux disparus au Zimbabwe et au Mozambique après le passage du cyclone tropical Idai.
Le bilan de l'attaque de vendredi contre deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande s'établit maintenant à 50 morts.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, selon le bilan provisoire, une vingtaine de personnes ont été tuées hier dans une attaque contre le poste des forces armées maliennes dans le village de Diora, cercle de Ténénkou, région de Mopti. Des dégâts matériels importants ont été signalés et des soldats maliens sont portés disparus. De Bamako, correspondance de Kassim Traoré.
C'est aux environs de 5h du matin, une quarantaine d'hommes lourdement armés dans 4 véhicules et sur des motos ont lancé un assaut sur le poste militaire de Fama à Djoura. D'après nos informations, les assaillants se sont divisés en 3 groupes avant de lancer l'assaut sur le poste à partir du nord-est et du sud-est à l'aide d'armes lourdes. Les soldats maliens qui se trouvaient dans le camp de Djoura ont essayé de riposter, mais ils ont été surpris par la puissance des feux des terroristes. Les Fama se sont retirés en rang dispersé, abandonnant le camp aux mains des terroristes. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de soldats maliens tués, 8 véhicules brûlés, une dizaine de blessés et plusieurs soldats portés disparus. Les terroristes ont emporté des véhicules, des armes et des munitions avant de brûler le reste du matériel. Il faut signaler que le poste militaire de Djoura disposait d'une centaine d'hommes bien équipés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La ministre éthiopienne des Transports a déclaré que les données des boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé le 10 mars en Éthiopie, faisant 157 morts de 35 nationalités, ont mis en évidence, je cite, « des similarités claires avec le crash en octobre d'un appareil du même type au large de l'Indonésie ». Les précisions de Bagassi Koura.
L'accident en Éthiopie est de fait le second en moins de 5 mois pour le Boeing 737 MAX 8, désormais cloué au sol dans de très nombreux pays. Lors de l'enquête sur l'enregistreur de paramètres, des similarités claires ont été notées entre le vol 302 d'Ethiopian Airlines et le vol 610 de Lion Air, a déclaré la ministre Dagmawit Moses au cours d'une conférence de presse. Ces parallèles doivent faire l'objet d'une étude plus approfondie. La ministre, interrogée à plusieurs reprises par des journalistes sur la question, n'a pas précisé quelles étaient ces similarités. Elle a en revanche indiqué que le rapport préliminaire sur les causes du crash serait publié dans 30 jours. Les boîtes noires retrouvées sur le lieu du crash, le FDR ainsi que l'enregistreur des discussions dans le cockpit avaient été envoyés en France pour analyse. Dimanche, le bureau d'enquête et d'analyse français a annoncé que les données contenues dans les boîtes noires avaient été téléchargées avec succès et remises à l'équipe d'enquête éthiopienne. Des centaines de personnes ont rendu hommage hier dimanche aux victimes éthiopiennes du crash lors d'une cérémonie en la cathédrale d'Addis Abeba. 17 cercueils recouverts du drapeau éthiopien ont été transportés à travers les rues de la capitale.
En République démocratique du Congo, au moins 24 personnes ont été tuées et 31 blessées hier dans le déraillement d'un train de marchandises à bord duquel avaient pris place des passagers clandestins, selon la police et les secours. Ce nouveau drame des transports dans un pays en manque d'infrastructures a eu lieu au Kasaï, dans le centre-ouest. C'est le troisième accident de train en l'espace d'un mois dans le centre de la RDC. La Société nationale des chemins de fer attribue ces accidents à répétition à l'état vétuste du réseau ferroviaire.
Au Soudan, manifestation de soutien aux chômeurs hier à Khartoum, la capitale, déclenchée par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les manifestations sont quasi quotidiennes depuis le 19 décembre dans le pays. Le président Omar al-Bashir est accusé de mauvaise gestion économique et les protestataires réclament son départ alors qu'il tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Le taux de chômage s'élève actuellement à environ d'environ 20% et l'inflation à près de 70% par an au Soudan, qui fait par ailleurs face à un grave déficit en devises étrangères.
Au moins 127 personnes ont trouvé la mort au Zimbabwe et au Mozambique voisin au cours du passage dévastateur du cyclone tropical Idai, et beaucoup d'autres étaient portés disparus dimanche dans ces deux pays d'Afrique australe ravagés par des inondations et des vents intenses. Des détails avec Jean-Roger Bian.
Le bilan au Mozambique est de 62 morts dans le centre du pays, tandis que le Zimbabwe a annoncé la mort de 65 personnes dans l'est. Le cyclone a frappé le Mozambique jeudi avant de toucher ensuite le Zimbabwe. Des milliers de personnes ont été touchées, l'électricité a été coupée et les principaux ponts ont été inondés dans cette région de Manicaland, limitrophe du Mozambique, selon un élu zimbabwéen. Dimanche, l'armée zimbabwéenne a aidé à secourir près de 200 élèves, enseignants et personnels de l'école qui avait été bloquée à Chimanimani, dans l'est du pays. Selon l'ONU, plus de 100 personnes sont portées disparues au Zimbabwe et près de 10 000 ont été affectées par le cyclone. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a écourté un voyage à Abu Dhabi et a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans le centre du Mozambique et l'est du Zimbabwe après le passage du cyclone accompagné de vents très forts, de pluies intenses et d'inondations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La police antiterroriste australienne a annoncé avoir perquisitionné lundi matin deux habitations en lien avec l'attentat contre deux mosquées vendredi à Christchurch en Nouvelle-Zélande, attentat dont le bilan s'établit maintenant à 50 morts. Ces habitations se trouvent près de Grafton, là où le suspect Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans, a grandi, même s'il a passé ces 10 dernières années à l'étranger. Par ailleurs, la police néo-zélandaise a rouvert l'aéroport de Dunedin, fermé après la découverte dimanche d'un colis suspect.
Et la Maison-Blanche a rejeté hier toute tentative de lier le président Donald Trump à ce suprémaciste blanc australien, Brenton Tarrant. Le président n'est pas un suprémaciste blanc, a souligné sur Fox News le secrétaire général par intérim Mick Mulvaney. Il a ajouté « Prenons ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande pour ce que c'est, un mal terrible, un acte tragique, et cherchons pourquoi ces choses deviennent courantes dans le monde. Est-ce que c'est Donald Trump ? Absolument pas », a-t-il dit. Dans son manifeste de 74 pages, le tueur de Christchurch avait rendu hommage au président Trump, le qualifiant de symbole du renouveau de l'identité blanche, tout en disant qu'il n'appuyait pas ses politiques.
En Syrie, les forces anti-djihadistes engagées depuis des semaines dans l'offensive contre l'ultime poche du groupe État islamique ont repris hier soir leur frappe contre Baghouz. Elles affirment avoir pris des positions à l'intérieur du réduit où des milliers de personnes seraient encore retranchées. L'offensive soutenue par les raids aériens de la coalition internationale menée par les États-Unis a été maintes fois suspendue ou ralentie par l'évacuation de dizaines de milliers de personnes.
Un soldat israélien a été tué hier et deux autres Israéliens, un soldat et un colon, ont été grièvement blessés dans une attaque palestinienne au couteau et à l'arme à feu en Cisjordanie occupée, selon l'armée. En campagne pour sa réélection aux législatives du 9 avril, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé à arrêter les terroristes derrière ces attaques. Le Hamas, mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, les a salués sans toutefois les revendiquer.
La justice internationale va statuer ce mercredi sur l'appel de l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić, condamné en première instance à 40 ans de prison pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre pour son rôle pendant la guerre de Bosnie qui a fait 100 000 morts de 1992 à 1995. Karadžić est jugé entre autres pour sa responsabilité dans le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica en 1995, le pire massacre perpétré en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Après la mort pendant son procès de l'ancien président serbe Slobodan Milosevic en 2006, Karadžić est le plus haut responsable à avoir dû rendre des comptes pour la guerre de Bosnie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La
Le ministère camerounais de l'eau et de l'énergie vient d'inaugurer des centrales solaires à Doumentang dans l'Est, dans le cadre d'un partenariat avec le chinois Huawei Technology pour un projet d'électrification de 1000 localités par système solaire photovoltaïque. Investir au Cameroun révèle que, grâce à ce projet, le kilowattheure de l'énergie produite coûte actuellement 100 francs CFA au lieu de 375 francs CFA avec des groupes électrogènes. En outre, il fournit l'électricité 24 heures sur 24. La Banque tunisienne de solidarité envisage financer 13 000 projets portés par des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et professionnel au plus tard en fin décembre 2019. Ecofin, qui a publié la nouvelle, écrit que la banque prévoit d'accorder des crédits pour un montant global de 79,3 millions de dollars aux projets retenus. Terminons cette minute éco avec la filiale belge du groupe bancaire français PNP Paribas qui va réduire de 40% dans les trois années à venir son nombre d'agences en Belgique et supprimer quelques 2200 emplois d'ici 2021. Ces suppressions d'emplois portent sur 17% des effectifs actuellement situés autour de 13 000. Pour ces réductions, la banque assure qu'elle aura recours le plus possible au départ à la retraite non remplacé, associé à des plans de départ volontaires.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Coupe de la CAF, on connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale et ce sera sans le tenant du titre.
Oui, le Raja de Casablanca, malgré sa victoire 4-1 sur le terrain de la STO, ne jouera pas les quarts de finale. La faute d'Assania Agadi, vainqueur 1-0 de la Renaissance de Berkane, déjà qualifié. Et puis, dans le groupe B, l'Étoile du Sahel arrache son ticket après avoir battu les Burkinabés de Salitas 1-0. Les hommes de Roger Lemaire terminent deuxième de la poule derrière leurs compatriotes du club sportif spatien. Ça passe également pour les Égyptiens de Zamalek, les Kenyans de Gomaya, les Soudanais d'Al Hilal et les Zambiens de Nkana.
On connaît aussi tous les qualifiés pour les quarts de finale en Ligue des Champions.
Et des fortunes diverses pour les clubs de la RDC. D'abord, la satisfaction du TP Mazembe qui termine en tête du groupe C après avoir battu Constantine 2-0. Les Algériens accompagnent tout de même les Corbeaux en quart de finale. En revanche, l'ASV Club cale dans le groupe D. Dans l'obligation de prendre un point chez les Tanzaniens de Simba, les joueurs de Florent et Bégué se sont inclinés 2-1, ce qui laisse Simba terminer second au classement derrière Al Hilal du Caire.
Les Guinéens de Oroya ont également obtenu leur billet pour ces quarts de finale.
Ah oui, les joueurs de Conakry ont écarté leur adversaire direct, les Sud-Africains d'Orlando Parrot, 2-1, grâce à Paï Camara et Boniface Rabat. Il termine ainsi deuxième du groupe A derrière les Tunisiens d'Espérance du Tunis. Et enfin, pas de miracle pour la SEC d'Abidjan battue 2-0 au Nigeria par l'Obi Stars et qui laisse le Wydad de Casablanca et le Mamelodi Sundowns filer en quart.
Au Bénin ont joué le premier tour de la Coupe Nationale.
Et les Panthers de Djougou ont dominé les Dragons de Porte-Nouveau 2-0. En quart de finale, ils affronteront Esaü Tombeur de la JS Faubert. L'Estonais, de son côté, a eu raison d'Asbo 1-0. Au second tour, le club de Voïcon affrontera la Jacques, qui a écarté hier Énergie au tir au but. Buffle de Paracou passe également après la séance des tirs au but devant Ekraqué et jouera à Spak en quart de finale. La dernière affiche de ce second tour mettra aux prises Béké à Énergie. Tous ces matchs auront lieu le 3 avril prochain.
Basketball avec le Mondial 2019 en Chine, les 5 pays africains sont fixés.
C'est à l'issue du tirage au sort qui a lieu à Beijing. La Tunisie, championne d'Afrique, se retrouve avec l'Espagne, l'Iran et Porto Rico. Le Niger, vice-champion continental, fera face à la Russie, l'Argentine et la Corée du Sud. Le Sénégal, pour son deuxième mondial d'affilée, hérite du Canada, de la Lituanie et de l'Australie. Quant à la Côte d'Ivoire, elle sera opposée à la Pologne, au Venezuela et à la Chine, pays hôte. L'Angola, pour sa huitième participation, s'attaquera à la Serbie, à l'Italie et aux Philippines. Et puis la NBA est avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit.
New York et LA Lakers, 124 à 123. Miami et Charlotte, 93 à 75, Philadelphie et Milwaukee, 130 à 125, Détroit et Toronto, 110 à 107, Orlando et Atlanta, 101 à 91, Sacramento et Chicago, 129 à 102, Houston et Minnesota, 117 à 102, et les Clippers et Brooklyn, 119 à 116.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, week-end agité dans quelques villes du pays, les militants de l'UDPS Tshisekedi, déçus des résultats des élections sénatoriales, ont pris d'assaut les rues de Kinshasa, Mujimayi et Goma pour exprimer leur colère. Ils ont saccagé certaines résidences de leurs députés provinciaux, leur reprochant de n'avoir pas voté pour les candidats UDPS au sénatorial. Un premier bilan fait état d'un mort à Mujimayi. Le président Félix Tshisekedi a appelé la base de son parti au calme et promis d'importantes mesures après la réunion interinstitutionnelle qu'il a convoquée ce lundi. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous, la base de l'UDPS, nous sommes déçus du comportement des députés élus. Nous ne voulons pas les sénateurs que les députés de l'UDPS ont voté. Nous sommes déçus et nous marchons, nous demandons de supprimer tous les députés sur la liste de l'UDPS. Nous demandons encore que tous les députés de l'UDPS soient jugés par la justice congolaise. Les députés de l'UDPS sont corrompus, ils n'ont pas voté les candidats sénateurs de l'UDPS.
Ces propos résument la colère qui a caractérisé les militants et sympathisants de l'UDPS Tshisekedi durant tout le week-end après la publication vendredi des résultats des élections sénatoriales. À Kinshasa, à Mujimayi comme à Goma, ils étaient des centaines à manifester à la recherche des députés de leur parti à qui ils reprochent de ne pas avoir élu des candidats sénateurs issus de l'UDPS. Pneus brûlés et siège du PPRD, parti de Joseph Kabila saccagé à Kinshasa, certaines résidences des députés provinciaux et la radio catholique Fraternité Buenamuntu saccagé à Mujimayi où un policier commis à la garde d'un député a même été tué. Ces militants, sympathisants et combattants du parti de Félix Tshisekedi ne comprennent pas comment, avec 12 députés provinciaux à Kinshasa, 7 au Kasaï oriental et 8 au Kasaï central, l'UDPS n'ait pas réussi à faire élire un seul sénateur dans ces trois provinces. Pour Peter Kazadi, député provincial élu de Kinshasa et ancien directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi, c'est purement et simplement de la corruption.
C'est la preuve qu'il y a eu la corruption. Je dois ici reconnaître que ce qui vient de se passer me dépasse. L'UDPS qui a 12 députés provinciaux élus, que l'UDPS ne puisse pas avoir un seul député, un sénateur à Kinshasa, ça me dépasse.
À Kinshasa, les manifestants empêchés d'aller à la cité de l'Union africaine où réside le président Félix Tshisekedi sont allés exprimer leur colère au palais du peuple, siège du Parlement. Mais dans la soirée, le président de la République a réagi à travers un communiqué invitant les militants au calme et leur annonçant la tenue ce lundi 18 mars 2019 à 10h d'une importante réunion interinstitutionnelle à l'issue de laquelle, je cite, « d'importantes mesures seront annoncées dans le strict respect de la Constitution et de la loi électorale pour préserver la crédibilité du processus électoral et la paix sur l'ensemble du territoire national ». Fin de citation. Au niveau de l'UDPS, le président intérimaire a lui annoncé dimanche soir que le parti va porter plainte contre ses propres députés provinciaux. Jean-Marc Kabunda Kabund.
Nous comprenons la colère de ces combattants parce que, ayant voté gratuitement pour ces députés, ils ne pouvaient pas comprendre que ces députés les trahissent. D'autre part aussi, nous ne pouvons pas accepter que ces combattants puissent s'adonner à des actes de vandalisme jusqu'à aller attaquer une permanence d'un parti partenaire à nous. Le parti va d'abord, dans un premier temps, ester en justice ses propres députés. Cela concerne 9 députés ici à Kinshasa, 6 députés à Mbujimayi, 5 ou 6 députés à Kananga.
Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les fuites de capitaux et les flux financiers illicites ont un impact négatif sur l'économie africaine, notamment l'investissement et la croissance économique. Le Sénégal est déjà dans les starting blocks pour lutter contre ce fléau qui mine les économies des pays africains, nous dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagay.
50 milliards de dollars, soit environ 29 000 milliards de francs CFA. Cette somme importante représente les flux financiers illicites répertoriés en Afrique. Des chiffres avancés par l'organisme Trust Africa. Des fonds qui dépassent largement l'aide au développement destinée à l'Afrique, comme l'affirme Koumba Touré, coordonnatrice d'Africa Rising, une plateforme de la société civile ouest-africaine.
Les chiffres les plus bas parlent de 50 milliards de dollars qui quittent ce continent, donc deux fois l'aide au développement que nous recevons. Mais les plus grands chiffres vont à 70 milliards et même certains parlent de 100 milliards parce que c'est très très difficile de suivre ces flux financiers illicites.
Ces flux financiers illicites sont un manque à gagner énorme pour le continent africain. Ces fonds pouvaient financer des projets de développement, notamment des infrastructures routières, sanitaires ou encore éducatives.
Qui devraient financer sur ce continent l'éducation, la santé, l'art, beaucoup de besoins que nous avons, que nous pouvons financer par nous-mêmes si l'argent, la richesse qui est créée sur ce continent bénéficie les Africains.
Alors, comment lutter contre les flux financiers illicites? Omar Diallo, agent au ministère des finances, donne des pistes.
Il y a toujours d'abord des améliorations, voire des réformes à faire, notamment sur le plan de la réglementation des investissements et de la fiscalité. Deuxièmement, nous devons renforcer les capacités de nos institutions et développer les instruments pour rendre l'évaluation et le suivi des flux financiers illicites plus efficaces. Troisièmement, les flux financiers illicites étant des mouvements qui suivent des réseaux intercontinentaux, il faudrait renforcer la solidarité et la coopération internationale entre les gouvernements des pays d'Afrique et ceux des pays destinataires.
La lutte contre les flux financiers illicites en Afrique est devenue primordiale pour permettre au continent d'éviter de perdre des fonds qui peuvent servir à son développement. Pour y arriver, les pays africains doivent faire des efforts conséquents dans la lutte contre la corruption et la gabegie. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Au Mali, organisation à Bamako par la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'un colloque régional sur les efforts contre le trafic illicite des stupéfiants. Ce colloque, tenu grâce au soutien financier du Bureau international du département d'État américain chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois, a réuni 7 pays de l'espace UEMOA. Les participants ont décidé de travailler désormais ensemble. Nous retrouvons Cassine Traoré.
C'est pour pallier le déficit de communication entre certaines structures de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants que ce colloque a été organisé. Magistrat colonel-major Adama Tunkara, directeur de l'Office central des stupéfiants du Mali.
C'est pourquoi avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, nous avons invité nos voisins ici qui sont le Niger, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, le Maroc, pour que nous puissions discuter ensemble des difficultés que nous avons à partager nos informations et amener des opérations conjointes dans l'espace que nous avons en commun. Le but de ce colloque, c'est d'avoir un réseau avec un canal de communication qui, à court ou moyen terme, deviendrait un canal sécurisé, mais que derrière ce réseau, nous puissions aussi bénéficier d'une assistance technique et d'outils performants pour pouvoir faire le travail que nous faisons.
Les pays participants reconnaissent qu'il y avait une nécessité de convergence, surtout en matière de communication.
Moi, je suis commissaire divisionnaire conseiller de l'AGI. Je suis secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue du Burkina Faso. J'ai vu la nécessité d'une bonne collaboration entre nos États. J'ai vu également que nous devons renforcer les capacités de nos structures opérationnelles pour leur permettre d'être efficaces sur le terrain en matière de communication, de collaboration entre les pays partenaires.
Le colloque de Bamako permet la collaboration renforcée entre les États pour une meilleure lutte contre le trafic de drogue dans la sous-région.
La drogue, c'est un phénomène transnational. Aucun pays seul ne peut le combattre. Donc, il faut coordonner les actions. On a déjà identifié le problème relatif à la lutte contre la drogue en disant que c'est un phénomène transnational. Ensuite, on a passé en revue les défis qui se posent au pays.
À l'issue des travaux, entre autres recommandations ont été formulées. Magistrat colonel-major Adama Tunkara du Mali.
On peut retenir comme recommandation que un réseau a été mis mis en place et que ce réseau a sa propre plateforme de communication et que à l'avenir il y aura des rencontres périodiques entre les différents services qui se sont retrouvés ici afin d'améliorer le cadre des échanges et pourquoi pas à l'avenir formaliser l'existence de ce réseau-là.
Pour une meilleure communication en temps réel, les réseaux sociaux seront utilisés dans un premier temps.
Nous avons à disposition des plateformes qui sont situées au niveau des organisations internationales, mais malgré cela, nous avons constaté que le partage d'informations reste assez timide. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait bon, comme ça se fait dans certaines de nos unités, comme les unités, les cellules aéroportuaires, l'utilisation des réseaux sociaux pour partager l'information en temps réel, parce que dans le cadre de l'opérationnel, il est important que l'information puisse être délivrée au bon moment.
Le colloque de Bamako a été possible grâce à la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Mali, qui veillera désormais au grain pour une meilleure application des recommandations. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire se prépare à rendre un hommage national à l'écrivain Bernard Dadier, décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, a recueilli quelques témoignages sur cette grande figure de la littérature africaine.
Auteur d'une vingtaine d'œuvres, Bernard Dadier était la figure de proue de la littérature ivoirienne et l'un des pionniers de la littérature africaine. Un écrivain qui s'est battu jusqu'au bout pour l'indépendance et la souveraineté de son pays et des peuples noirs. René Nyalega, enseignant, écrivain et président de la Fondation Bernard Dadier.
C'est un écrivain qui défend les libertés et il est contre toute forme d'injustice. Il n'a pas accepté certaines situations pendant la période coloniale, mais aussi il n'a pas accepté qu'il y ait des dictatures en Afrique. C'est un homme qui est profondément engagé par rapport à la nécessité de libérer les hommes de n'importe quel joug.
Foi Ernest Dessin-Sauveur, ancien président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire.
Ce qui m'a marqué dans son œuvre, c'est la dimension humaniste, la portée universelle. C'est une œuvre qui est très critique vis-à-vis de la colonisation et de ses dérives, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une œuvre qui est ouverte à la fraternité des hommes. Une œuvre qui appelait à construire des ponts entre les communautés, entre les peuples, qui redonnait de la fierté à l'homme noir. On pense à son fameux poème « Je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir ».
Foi Ernest de Saint-Sauveur regrette que la Côte d'Ivoire et l'Afrique n'aient pas su honorer l'écrivain Dadier de son vivant.
C'est vrai, il a été honoré en Côte d'Ivoire. Il y a un grand palais qui porte son nom, palais de la culture. Mais je ne crois pas que son pays, la Côte d'Ivoire, l'ait honoré à la dimension de sa hauteur. Le pays doit encore montrer qu'il tient en cet homme-là un modèle, une référence. Comme la France a pu le faire, et la France et d'autres pays ont pu le faire pour les grandes figures de leur littérature, de leur pensée, de leur intellectualité.
Les autorités ivoiriennes sont cependant mobilisées pour rendre un hommage national à l'écrivain disparu, Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie.
Sur instruction de son excellence, monsieur le président de la République. Et en liaison avec la famille du disparu et les acteurs du monde de la culture, un hommage national sera rendu à l'illustre disparu en raison du modèle de vie qu'il symbolise pour les jeunes générations et de la place majeure qu'il occupe dans le champ des belles lettres.
Le président ivoirien Alassane Ouattara salue l'œuvre riche et variée de Bernard Dadier, une œuvre qui, dit-il, a fait rayonner l'histoire de la littérature contemporaine et fait rayonner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Pour Laurent Gbagbo, en résidence à surveiller en Belgique, Bernard Dadier était un homme aux multiples talents et aux convictions incorruptibles et qui a tout donné à sa patrie et à son continent afin de les sortir des chaînes de la domination infâme. Henri Konabédier salue pour sa part le combattant de la liberté et de l'émancipation des peuples noirs qui a contribué à l'éveil des consciences de ses concitoyens. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.